Bien, on va reprendre avec donc cette nouvelle table ronde intitulée Expérience musicale, où il va être question d'écoute musicale, de goût pour le rap, de la manière dont ce goût se construit, comment ensuite il permet de se distinguer ou pas d'autres personnes qui en écoutent, ou encore comment le goût pour le rap et son écoute en public peut poser question. On va intervertir un petit peu l'ordre des présentations par rapport au programme. Donc je vais tout d'abord passer la parole à Pauline Guérin pour une présentation intitulée « La conversation d'amateurs de rap, légitimation et illégitimation des pratiques culturelles des femmes ». Donc Pauline est étudiante en Master 2 à l'Université de Paris 8 Saint-Denis. Pauline, c'est à toi pour 20 minutes.
Alors, je ne sais pas s'il marche. Ça marche, oui. Alors, moi, je vais vous parler de la conversation d'amateurs comme procédé d'illégitimation ou de légitimation des pratiques culturelles des femmes. Donc, alors déjà, je vais commencer par vous parler de la catégorie d'amateurs qui est régulièrement mobilisée dans les écrits scientifiques parce qu'elle a fait se renverser une sociologie de la culture qui était d'abord tournée vers les professionnels et qui voyait un peu les publics comme passifs et... vers une sociologie des amateurs, comme l'explique Aignon, qui a permis de révéler que bon nombre de pratiques culturelles, leur implication sociale, et aussi surtout comment elles se créent par ces mêmes relations sociales. Donc par exemple, dans son enquête sur les publics du rap, Stéphanie Molinero souligne l'existence, lors de ses entretiens, de mécanismes qui participent de l'affirmation de la qualité d'amateur de ses enquêtés. Et donc la mise en avant de ses connaissances en se distinguant, en se valorisant par rapport à d'autres personnes, permet de signifier que l'on fait partie de ceux qui s'y connaissent, soit les amateurs. Et lors des conversations d'amateurs que j'ai étudiées, j'ai vu que ces mêmes mécanismes se mettaient à l'œuvre et permettaient aussi de définir un cadre partagé de l'amateurisme au sein duquel les pratiques sont catégorisées. Et ces conversations comportent des enjeux qui sont éminemment genrés. Et du coup, ma communication va porter justement sur ces enjeux. Donc cette communication, elle s'appuie sur une enquête que j'ai menée dans le cadre du coup d'un master en sociologie et qui visait à interroger la façon dont les auditrices de rap s'appropriaient cette musique qui qui est associée médiatiquement au masculin, puisque comme nous l'a expliqué Karim Amou, les discours relayés par les médias associent bien souvent le rap à la figure du jeune de banlieue, ce qui entérine une représentation du rap comme étant essentiellement masculin, comme l'explique aussi Claire Le Sachet. Du coup, je me suis posé la question de comment les auditrices de rap se situaient-elles par rapport à ces représentations et quels impacts ces représentations avaient-elles sur leurs pratiques culturelles. Du coup, mon enquête s'est appuyée sur plusieurs sources. D'abord sur une ethnographie que j'ai menée dans des milieux d'interconnaissance militants, féministes mais aussi antifascistes. Interconnaissance parce que j'en faisais déjà partie avant. Et sur un travail aussi d'observation d'une dizaine de concerts qui a été réalisé. Enfin, ces concerts étaient réalisés par des artistes de rap aussi bien à destination du grand public qu'à destination de milieux militants précis. Mais aussi des entretiens semi-directifs, avec des amatrices que je mobiliserai du coup durant cette communication. Donc dans chacune de ces situations, il m'est apparu que s'engager dans ou éviter une conversation sur le rap, c'était un enjeu dans la reconnaissance de soi comme auditrice légitime. Du coup, je vais montrer comment la conversation entre amateurs, elle sert de moyen de reconnaissance entre pairs et affirme les contours d'un entre-soi et dans lequel finalement les femmes n'ont que très peu de place. Dans un second temps, je vais me pencher sur les possibilités qui sont laissées à ces mêmes femmes pour atteindre le statut d'amateur et sur les contournements et les pratiques à la marge de ces normes. Et enfin, en conclusion, on va s'interroger sur la distinction même entre amateur et auditeur ou consommateur parce qu'elle peut être interrogée, parce qu'elle remet en jeu des rapports de pouvoir et ne se contente pas juste de désigner des pratiques musicales mais les hiérarchise aussi en valorisant certaines et en dévalorisant d'autres comme l'explique Thornton. Donc dans un grand 1, je vais m'intéresser à la conversation amateur, définition d'un entre-soi qui peut être masculin. Donc comme je l'ai dit, on va d'abord s'intéresser à la reconnaissance entre pairs et l'affirmation de soi. Donc la conversation entre amateurs initiés, mais que j'étends ici à auditeurs, c'est une entrée privilégiée pour appréhender la façon dont le collectif agit comme médiation au cœur de la relation à la musique, comme l'explique Lisée. C'est-à-dire que la réception musicale, c'est aussi aussi le produit de relations sociales qui s'établissent entre auditeurs. Donc cette conversation, une conversation musicale, c'est un bon moyen d'identifier ses pairs et de tisser des liens, puisque le fait de parler, de mettre en avant ses connaissances, de savoir le faire et de posséder les bonnes références, c'est finalement indissociable de la revendication du statut d'amateur selon les milieux. Et cette revendication, elle est liée à des situations et des espaces précis et situés. Puisqu'on ne revendique pas son amateurisme de la même façon dans un milieu d'entre-soi féministe non mixte, par exemple, ou antifasciste, ou dans un milieu politisé ou non, ou dans un milieu qui est acquis au rap ou non. Et d'où l'importance pour mon enquête de faire varier ce genre de situation. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait même d'engager une conversation avec une autre personne qui était identifiée comme connaissante, cela revenait à affirmer le fait que l'on s'y connaisse et que l'on accepte donc que ses goûts puissent être jugés et ainsi que ses pratiques. Donc, la conversation d'amateur, elle possède une fonction d'admission ou de rejet. Et pour ne pas se confronter à ces échelles de valeurs, il y a des personnes qui vont refuser ou éviter ce type de conversation. Dans le cas plus particulier du chercheur sur son terrain, donc le mien, le fait même de parler de mon sujet de mémoire poussait les interlocuteurs hommes de mon terrain militant à me voir comme affirmant mes connaissances et assumant une parole scientifique sur le rap. Tout simplement parce que je travaillais sur les auditrices de rap. Donc, alors moi, je ne m'étais jamais... je suis auditrice de rap et je n'avais jamais revendiqué un quelconque amateurisme et j'avais des pratiques plutôt solitaires. Il se trouve juste qu'étant féministe et aimant le rap, j'avais décidé tout simplement de m'intéresser aux femmes qui écoutaient du rap. Sauf que dès le moment où je prononçais le sujet de mon mémoire, il y avait des réactions qui visaient à me déstabiliser et qui se sont toujours inscrites dans le cadre de conversations d'amateurs. Et la réaction principale à chaud que je recevais sur le terrain qui était mixte, donc le milieu militant, c'était l'incrédulité, mais surtout l'hilarité, parce que ça entraînait forcément une conversation durant laquelle j'étais censée prouver mon statut d'amatrice et qui légitimerait du coup un mémoire sur le rap. Donc par exemple un extrait, après avoir éclaté de rire lorsqu'il a appris le sujet de mon mémoire, I a commencé à mettre du rap dans le local, il n'y avait eu précédemment aucune musique, puisque nous étions censés travailler sur nos cours, a commencé alors un jeu de qui connaîtra mieux que l'autre. Du coup, le fait même d'assumer d'avoir une parole sur le rap, quelle qu'elle soit scientifique ou amateur, ça revient à devoir répondre à des interrogations sur ses pratiques, sur ses goûts et sur ses dégoûts. Et c'est au cours de ces conversations entre amateurs que se mettent en place les mécanismes qui sont destinés à établir si telle ou telle personne peut être désignée comme amateur ou amatrice. Donc on va voir un petit peu ce que sont ces échelles de valeur. Parce que si cette conversation qualifie des pratiques, elle en disqualifie forcément d'autres. Donc on va voir que ces conversations mettent en lumière les échelles de valeur qui sous-tendent l'accès au qualificatif d'amateur et qu'elles ne peuvent pas être comprises en dehors des rapports sociaux de pouvoir et notamment les rapports de genre. Donc sur mon mémoire j'ai parlé d'autres rapports, par contre là je me concentre vraiment sur le genre. Donc on va voir grâce aux entretiens que j'ai conduits mais aussi mon expérience de terrain que les critères d'amateurisme ont été partagés autant par les femmes que j'ai interrogées que par les protagonistes du terrain militant antifasciste. Donc par exemple, un des points les plus importants, c'était la présence au concert, qui était mis en avant comme un critère majeur, tout d'abord par les femmes que j'avais interrogées, que ce soit comme un qualificatif, puisque une m'a expliqué qu'elle se considérait notamment comme une vraie amatrice parce qu'elle allait à au moins 20 concerts par mois, mais aussi comme un disqualificatif, puisque deux autres m'ont expliqué « je ne vais pas du tout en concert, je préfère écouter de la musique seule, je ne sais pas si je suis encore amatrice », et une autre « je ne sais pas si je me dirais amatrice, je ne vais pas beaucoup en concert à part militant, et je ne connais pas tant que ça ». En parallèle, dans le cadre de mon observation, dans le milieu antifa, j'ai retrouvé donc, ces mêmes critères d'évaluation de mon propre amateurisme qui se sont manifestés durant les conversations et c'était sur les sorties en concert qui sont devenues un enjeu très important. Il a fallu en fait prouver que je n'allais pas seulement en concert militant, que j'y allais assez souvent, mais surtout et aussi que je me déplaçais pour voir des groupes que j'appréciais. Donc, au sein de plusieurs conversations, il a fallu que je dénombre les concerts que j'avais assistés, que je donne les noms d'artistes que j'étais allée voir. Donc là, c'est un journal de terrain qui relate un de ces moments, puisque c'était avant une observation d'un concert et j'avais croisé cette personne dans le métro et du coup, je suis allée avec lui puisqu'il faisait partie de mon terrain. Donc je le laisse me parler des femmes qu'il y aura au concert, j'ai l'air sceptique, ce qui a l'air de l'énerver. Il me regarde de haut, se renseigne sur le dernier concert que j'ai vu et me demande de ne surtout pas évoquer les concerts militants où il m'a souvent croisée. Car selon lui, je ne viens pas pour le rap, mais parce que je suis militante. Se moque de moi en tournant la tête de gauche à droite lorsque je lui dis que le dernier concert que j'ai vu était IAM. Je lui redis que je ne vais pas beaucoup en concert et que je préfère écouter de la musique en solitaire. Il se moque encore de moi, me tape l'épaule, me chip et s'en va. Donc la présence au concert ici, c'est une présence. Enfin, la présence au concert, c'est un critère primordial. Mais en fait, ce qui est important, c'est que pour aller à des concerts, il faut pouvoir investir du temps, investir aussi de l'argent, mais il faut aussi pouvoir se sentir à l'aise dans une salle noire qui est remplie de corps inconnus. Donc par exemple, sur mon terrain, dans les concerts que j'ai observés, il y a eu beaucoup de cas d'harcèlement et d'agression dans les fosses. Donc, deux extraits ici, sur deux concerts différents. Dans les conversations que j'ai eues avec elles quelques jours après les concerts, elles m'ont rapporté que beaucoup d'entre elles avaient subi des attouchements, beaucoup de mains aux fesses. Je me suis retrouvée moi-même en situation très gênante lorsque la salle s'est vidée, puisque du coup il ne restait que quelques hommes. J'ai voulu demander une cigarette, ils ont essayé de m'embrasser, tout ça. Un autre concert, je me suis absentée pour aller faire un tour de la salle. Lorsque je suis revenue, une des militantes que je connaissais et qui connaissait mon sujet de mémoire m'a fait part d'une agression, puisqu'un homme l'avait suivie dans la fosse pour danser en se collant à elle et en la touchant jusqu'à ce qu'elle s'éloigne très énervée et le repousse. Donc elle m'avait demandé de retranscrire cette histoire dans mon mémoire. Donc comme on le voit, le fait d'aller ou de ne pas aller, c'est un élément primordial pour accéder au statut d'amateur, mais cette pratique, elle est très genrée, puisque les concerts sont majoritairement masculins, les fosses peuvent être inamicales. Du coup, valoriser le fait d'aller en concert contre d'autres formes de culture de goût, c'est aussi valoriser une pratique dans laquelle les hommes ont un privilège, et donc dévaloriser tendanciellement des pratiques plus féminisées, comme par exemple l'écoute en solitaire. Donc dans une deuxième partie, je vais m'intéresser à comment accéder au statut d'amatrice ou comment contourner ces normes. Donc je vais d'abord m'intéresser à une chose, c'est que la valorisation de l'une peut signifier la dévalorisation des autres. Si les échelles de valeur doivent être analysées en tant que produit social qui régule l'accès au statut d'amateur, il faut toutefois se garder de penser qu'aucune femme ne peut avoir accès à ce statut, puisque certaines femmes y accèdent, notamment via ce que Marie Buscato définit comme du copinage masculin. Puisque dans son article, elle s'interroge sur la place des femmes dans l'univers du jazz professionnel et parle du coup des critères qui pèsent beaucoup plus lourdement sur les femmes que sur les hommes. Je les ai rapprochés de mon terrain parce qu'ils étaient assez similaires. C'est pour ça que je reprends sa notion de copinage masculin. Donc, du coup, selon Buscato, ces femmes seraient caractérisées par leur facilité à évoluer dans un milieu masculin, aussi la fierté de savoir remettre à leur place leur entourage. Et dans le cadre de mon enquête, ça c'est quelque chose que beaucoup de femmes ont mis en avant, notamment celles qui étaient militantes. Par exemple, une, je veux pas forcément rentrer dans le tas, mais j'ai un point de non-retour aussi, quoi. Je sais que faut pas pousser. Si je te respecte, il faut que tu me respectes aussi. Je vais pas dire la suite. Une autre, je traîne plutôt qu'avec des gars, mais j'ai des copines. Avec une copine, on écoute beaucoup de musique ensemble, mais je préfère quand même plus traîner avec des mecs. Et du coup, en fait, il y a une forme de valorisation dans le fait d'être la seule femme dans un univers d'hommes, parce qu'elle peut devenir l'exception qui confirme une règle. Et que cette position d'exceptionnalité, elle s'est aussi retrouvée durant l'un de mes entretiens avec une femme, celle qui se définit comme amatrice et qui va beaucoup en concert. Par exemple, elle a eu beaucoup de mal à qualifier d'autres femmes qu'elle-même comme amatrices. Malgré le fait qu'elle partage son goût pour le rap avec sa colocataire et une très très bonne amie, elle a mis en avant sa propre personne d'amatrice. Elle a refusé le qualificatif aux autres femmes qui l'entouraient, notamment en se définissant comme plus amatrice qu'elle. Donc, s'il y a des femmes comme elle qui peuvent bénéficier de ça, R, par exemple... Je suis désolée, je me suis embrouillée dans les noms. Du coup, en fait, la première femme qui parlait, c'était K, et la deuxième, c'était R. Voilà, je suis désolée. Donc là, c'est R qui m'explique qu'elle avait été très mal à l'aise lorsque des amis à elle avaient commencé à la valoriser parce qu'elle écoutait du rap et que, selon eux, possédait des connaissances qui s'approchaient un peu des leurs. Donc elle m'explique, ils ont compris que je m'y connaissais bien, tu vois, aussi bien qu'eux. Et du coup, ils m'ont mis sur un piédestal. Ouais, sur un piédestal, c'était assez chelou comme truc. Donc du coup, là, on voit une forme de valorisation des femmes qui écoutent du rap, et notamment via le caractère exceptionnel de ce goût. Parce que... avant qu'ils ne se rendent compte qu'elle avait les mêmes connaissances, elle m'avait expliqué qu'elle avait eu beaucoup de mal à se faire intégrer dans ce groupe-là. Et après, a commencé une valorisation. Du coup, ce traitement, ça montre aussi la place périphérique qu'occupent les publics féminins du rap, qui sont ramenés à des individualités exceptionnelles. Donc dans un grand B, on va s'intéresser à la dissimulation, au contournement et à la non-mixité, c'est-à-dire les pratiques qui vont être à la marge, comment contourner en fait ces normes et ces échelles de valeur. Du coup, dans mes entretiens sont ressorties beaucoup de techniques pour éviter ce genre de conversation, pour contrôler les goûts que l'on présente lors de ces conversations. Donc il y a eu plusieurs situations qui ont mis les femmes que j'ai interrogées dans une position où elles ont choisi consciemment de dissimuler leur goût et de les masquer. Donc, dans le milieu militant antifasciste, par exemple, il est admis par ses acteurs que le rap militant doit être valorisé et apprécié. Du coup, deux des femmes que j'ai interrogées qui participaient aussi de ce même milieu antifasciste, mais aussi pro-féministe, ont toutes les deux rapporté des moments où elles se sont senties obligées de dissimuler leur goût. Donc, eux qui m'expliquent, en citant un groupe militant assez connu, ouais, c'est... moi, je dis, mais ça va, tu peux le dire, hein, je vais pas le répéter. Bon, là, je le répète, mais c'est anonyme. Ouais, ben moi j'aime pas trop, mais faut pas le dire, hein. Surtout, ha ha ha, mais putain, t'imagines si quelqu'un m'entendait, mais t'imagines, oh mon Dieu, ha ha ha. Donc en fait, elle nous explique ici qu'un des groupes du milieu militant qui est très apprécié, qui fait beaucoup de concerts, n'est pas à son goût, mais sachant qu'elle serait seule et probablement attaquée ou un peu dénigrée, elle a préféré ne le dire à personne et mentir et dire que oui, oui, elle aimait bien ce groupe. Et elle était très gênée et très hilare, et ça montre aussi à quel point il lui semblait improbable de pouvoir parler de ça à quelqu'un sans que cela n'ait de conséquences. Mais cette gêne, elle peut provenir aussi d'une autre source qui peut sembler aussi un peu paradoxale, puisque R m'a expliqué on était dans une voiture, il voulait mettre de la musique et brancher l'iPod de quelqu'un. Et j'ai pas voulu donner le mien, je voulais pas qu'il voie Jul et Booba. Tu vois, c'est des féministes. Hein. Je veux dire, même à l'oral, les gars, ils féminisent tout. Non, mais je dis pas, c'est bien, mais bon, c'est je sais pas. Donc dans ce cas précis, elle invoque une interaction dans un milieu pro-féministe entre elle et des hommes qu'elle présente comme féministes. Elle a été très mal à l'aise à l'idée d'être jugée sur ses goûts et du coup a préféré cacher son iPod. Et elle se considérait elle-même comme féministe et elle m'a expliqué qu'elle n'avait pas assumé écouter ce type de rappeur, qu'elle avait eu très peur de la réaction des personnes dans la voiture et qu'elle n'aurait pas supporté qu'ils se moquent d'elle. Donc du coup, on voit qu'il y a une intériorisation des codes et une dissimulation de ce qui ne rentre pas dans ces normes selon les milieux, puisque ce ne sont pas les mêmes normes, que ce soit dans le milieu antifasciste ou le milieu pro-féministe. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il existait de nombreuses pratiques alternatives à celles définies comme amateurs, puisque dans un premier temps, les femmes que j'ai interrogées m'ont toutes signifié avoir une amie avec laquelle elles partageaient leurs goûts musicaux, échangeaient et partaient en concert. Donc il y a quand même une prévalence d'une amitié non mixte pour apprécier le rap, et souvent c'est vraiment une amitié duale, elles sont deux. Trois femmes sur les quatre interrogées m'ont aussi expliqué préférer une écoute en solitaire ou en petit comité, et notamment en non-mixité plutôt que de sortir en concert. Lors de notre entretien, eux m'ont aussi expliqué vouloir créer des projets hip-hop non-mix pour visibiliser les publics féminins cisgenres, mais aussi les personnes transgenres, que ça soit dans les publics, mais aussi sur la scène. Et donc elles m'expliquent qu'il faudrait qu'on fasse des projets, des trucs, qu'on voit plus les femmes sur scène et tout. Et je suis sûre qu'il y a plein de meufs qu'on connaît pas. En tout cas, moi je sais qu'il y a un festival non-mixte à Saint-Étienne et j'aimerais trop y aller. En fait, du coup, face à un statut d'amatrice qui ne leur sera pas reconnu, les femmes que j'ai interrogées, au lieu de se détourner du rap en tant que genre musical, elles ont plutôt contourné ces pratiques normées pour en développer d'autres qui sont basées sur une petite écoute une écoute en petit comité, plus en solitaire, en non-mixité et plutôt chez soi qu'en concert. Du coup, en conclusion, j'aimerais souligner que c'est la distinction même, selon moi, entre amateur et auditeur ou consommateur qui doit être interrogée, parce qu'elle met en jeu des rapports de pouvoir et du coup, comme je l'ai dit, ne fait pas que désigner mais classifie. De ce fait, il me paraît important de penser autrement quand ces distinctions. Et par exemple, si Lisée note bien que la figure de l'amateur qui affirme sa maîtrise de l'objet de goût par le savoir s'est historiquement construite sous le sceau de la masculinité dans un univers qui fut et qui reste essentiellement masculin, il n'approfondit pas cette observation, mais analyse par contre la notion d'amateurisme comme un rapport social de classe, en montrant notamment comment dans le cadre du jazz elle se constitue et par quels biais sociaux, posséder les mêmes types de pratiques, aimer, valoriser les mêmes types de chansons, rejeter les musiques considérée comme commerciale. Aignon, quant à lui, qui définit les amateurs comme ceux qui aiment, par opposition aux professionnels, décrit comment ils essaient de se coordonner avec d'autres humains dans un montage collectif au sein duquel les goûts, les préférences et les choix sont mis à l'épreuve, tentés mais aussi affermis. Donc présenter l'amateur en contraste avec le professionnel, ça ouvre déjà beaucoup les portes de l'amateurisme à une plus grande quantité de personnes, mais par contre il ne mentionne pas l'existence de rapports sociaux de domination qui peuvent jouer sur la reconnaissance sociale en tant qu'amateur. Et du coup on voit que s'il y a beaucoup d'études qui ont porté sur l'amateurisme et sur... Ah, ça va revenir, je suis désolée. Sur l'amateurisme et les relations sociales et les implications sociales, il faudrait maintenant se poser la question de comment l'analyser sans se faire se rejouer les dynamiques basées sur les divers systèmes d'oppression.